je pense que déjà, on vit dans un monde toujours plus toxique. En fait, on baigne dans une espèce de soupe de substances toxiques pour nos hormones et pour notre corps, notre santé de manière générale. Plein de perturbateurs endocriniens, donc des perturbateurs hormonaux. Et ça, c'est vraiment notre quotidien en permanence. Hein. L'eau que l'on boit avec laquelle on se lave n'est certainement pas dénuée de substances impures, on va dire. Notre alimentation est bourrée de pesticides. Et tout ça, ça perturbe nos hormones. Ça accable notre foie, qui est pourtant le grand responsable de la régulation hormonale, entre autres. Et voilà, ça peut faire partie des éléments qui pourraient expliquer que c'est de plus en plus commun, malheureusement. Mais il y a plein d'autres facteurs. Je pense au stress chronique, qui est une vraie épidémie et qui nous affecte tous. Vraiment, le stress chronique, ça perturbe toutes les hormones. Hein. Souvent, c'est le responsable, le déclencheur du problème. Et si c'est pas le déclencheur, c'est à minima un énorme contributeur.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secrets de Polichinelle. Secrets de Polichinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute!
Bonjour Marion.
Bonjour Laetitia.
Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre cet épisode de Secrets de Polichinelle.
Avec plaisir, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation.
Alors, chez Secrets de Polichinelle, nous aimons partager des témoignages, des pistes pour être acteur, actrice de sa vie, la transformer et puis surtout pouvoir la vivre dans les meilleures conditions possibles. Alors pour moi, un des piliers, c'est forcément la santé et puis l'alimentation qui nous occupe beaucoup au quotidien. Je crois qu'on en parle de plus en plus. J'ai eu la chance aussi de passer quelques années dans d'autres pays, notamment des pays anglophones comme toi, je crois. Et puis aussi d'avoir une approche complémentaire de la médecine allopathique, notamment via la naturopathie, via les plantes. Et je suis persuadée de leur intérêt dans notre bien-être au quotidien. Donc c'est tout naturellement que j'ai eu envie de t'inviter après avoir suivi certaines de tes conférences et ton compte depuis quelques temps déjà, quelques années, je pense maintenant. J'aime beaucoup ton approche qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir souvent en France. Et donc voilà, je t'invite Marion déjà pour commencer à te présenter, à nous donner un peu plus d'informations sur ton parcours et ce qui t'a amené à devenir nutrithérapeute.
Alors merci déjà pour ton intérêt pour mon travail et merci d'avoir assisté à mes conférences et pour ton soutien. Alors moi, en deux mots, je suis nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins. Donc mon métier consiste à aider les femmes à surmonter leurs problèmes hormonaux avec l'alimentation, donc ce qu'on met dans notre assiette, et aussi des compléments alimentaires que j'appelle de qualité praticien par opposition à des compléments alimentaires beaucoup plus bien-être ou confort. Donc vraiment, on les utilise à visée thérapeutique. Et du coup, je m'occupe de tout ce qui va mal chez une femme hein, spécifiquement. Donc ça inclut malheureusement beaucoup de choses entre l'adolescence et la ménopause, en passant par beaucoup d'endométriose, de SOPK, de problèmes de thyroïde, de fertilité, entre bien d'autres choses malheureusement. Et j'en suis venue ici après un parcours vraiment un petit peu chaotique parce que j'ai fait plein d'autres choses avant et j'ai pas fait de la nutrition juste après le bac. Donc en fait, juste après le bac, donc, je suis venue à Paris, de ma Normandie natale, et j'ai commencé une prépa. Et je me suis retrouvée un petit peu toute seule dans ma petite chambre de bonne à devoir me faire à manger. Sauf que, ben voilà, je ne savais pas trop comment faire. C'était un peu ma première expérience de cuisine toute seule. Et du coup, j'ai profité d'Internet pour trouver des recettes pour savoir que me faire à manger. Et par chance, finalement, je suis tombée sur des recettes où, dans la recette, on expliquait que tel aliment, ça faisait quelque chose dans notre corps. Tel aliment, c'était antioxydant, anti-inflammatoire. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça. Et avec quelques petites recherches, je me suis rendu compte que oui, en fait, l'alimentation avait un vrai pouvoir sur notre santé en bien comme en mal, en fonction de ce qu'on choisissait de manger. Et à ce moment-là, c'était comme un premier déclic, parce que ça paraît tout bête, mais finalement, à l'époque, c'était vraiment pas quelque chose dont j'avais conscience. Donc j'ai compris que oui, ce qu'on mangeait pouvait influencer notre santé. Et à ce moment-là, moi, j'étais un petit peu dans la restriction pour rester mince, etc. Et je me suis rendu compte que vraiment, en fait, je me privais de nutrition vraiment au niveau cellulaire et que c'était pas si bien que ça. Donc j'ai vraiment changé d'état d'esprit par rapport à l'alimentation, de quelque chose qui était juste un potentiel de faire grossir à quelque chose qui pouvait réellement nous nourrir et faire en sorte que on ait le carburant pour être en pleine forme et vivre notre vie.
Et ça, quel a été pour toi vraiment le déclic dans ce changement-là, dans ce changement de perception?
Oui, ça a été vraiment ce moment-là qui a tout changé pour moi. Mais j'étais engagée dans d'autres études et j'ai continué continuer, mais en fait, je passais tout mon temps libre à lire des bouquins sur le sujet. Donc, par exemple, je crois que mon premier bouquin, c'était le bouquin de Chris Carr, qui est une personne qui a surmonté le cancer, qui était vraiment dans un état où on ne lui donnait pas de chance de survie, et qui a commencé à changer son alimentation et qui s'en est sorti. Et voilà, j'ai lu son bouquin avec grand intérêt sur les types de nutriments qui pouvaient en fait faire croître le cancer, d'autres qui pouvaient le combattre par rapport à ce qui se passait au niveau cellulaire. Et du coup, là, voilà, j'ai commencé le rabbit hole, comme on dit, et c'était un petit peu ma passion grandissante à côté de mes études. Oui. Donc, je me suis passionnée du sujet et finalement, j'ai commencé à bosser après des études très diverses en communication, politique, publique. Et puis, ça se passait plutôt bien jusqu'à une expérience qui s'est très mal passée de burn-out où finalement, j'avais plus vraiment de perspective. J'étais un petit peu au bout du rouleau et en fait, je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire de la nutrition métier, en tout cas de me réorienter puisque j'ai plus de perspective. Et donc, grâce à ce burn-out, j'ai pu reprendre ces études en nutrition et changer complètement de voie. Et lors de ces études, je me suis rendu compte que plein de symptômes hormonaux dont je souffrais n'étaient pas juste une fatalité génétique, familiale, et que ça correspondait à des diagnostics qu'on pouvait les faire disparaître aussi avec l'alimentation. Donc ça a été un deuxième déclic. Je me suis rendu compte que y compris mes problèmes de santé pouvaient être réglés via l'alimentation. Et c'est tout naturellement, finalement, par la suite, une fois diplômée, que je me suis spécialisée dans des problèmes hormonaux puisque j'ai été touchée par des problèmes essentiellement hormonaux. Par exemple, moi, j'ai une endométriose qui a été diagnostiquée très tardivement, mais qui était très symptomatique dès la puberté. J'avais un SPM carabiné, de l'acné adulte qui empirait avec l'âge, une chute de cheveux assez catastrophique, beaucoup d'anxiété maladive, entre autres choses. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de cœur que j'exerce mon métier parce que je sais ce que c'est. Et c'est un plaisir d'accompagner les femmes à retrouver une qualité de vie.
Très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est une nutrithérapeute ? Parce qu'on entend, on connaît bien le métier de diététicienne nutritionniste ou diététicien nutritionniste. On entend parler de naturopathe beaucoup. Quelle est la spécificité du nutrithérapeute ?
Oui, alors ça peut être un peu confus. Et alors là, je vais te donner un petit peu ma vision de ces trois professions. Mais j'espère bien évidemment ne froisser personne. Et je n'ai pas fait d'études de naturo ou diététique. Donc éventuellement, c'est peut-être pas exactement correspondant à la réalité. Mais ma vision des choses, c'est que déjà, la nutrithérapie, c'est une discipline scientifique qui vise à utiliser l'alimentation et les compléments alimentaires comme des outils thérapeutiques, comme des nutraceutiques en fait, qui vont aller agir au niveau cellulaire pour aller inhiber, encourager, rétablir des processus biochimiques. Donc c'est vraiment de la biochimie pure. Et avec la nutrithérapie, on adopte une approche globale qu'on appelle holistique parfois ou fonctionnelle, qui en fait consiste à prendre chaque personne dans son entier, dans son individualité, et qui va essayer d'aller explorer finalement les causes profondes des soucis de santé plutôt que d'essayer de les manager en surface pour agir vraiment à la source et réellement régler le problème plutôt que de le masquer. En gros, c'est ça. Et alors, par rapport à un naturopathe, c'est vrai que dans une certaine mesure, on a une vision assez similaire. Le naturopathe, il va prendre lui aussi chaque personne dans son individualité, dans sa globalité, mais il va avoir une boîte à outils beaucoup plus large, en fait. En plus de l'alimentation, il va certainement utiliser la gestion du stress, l'hydrothérapie, les plantes, l'iridologie, entre autres. C'est un peu comme... J'aime bien dire que c'est un généraliste, finalement, des approches complémentaires. Donc, a priori, aussi généraliste en alimentation, en nutrition, alors que moi, de mon côté, je fais que la nutrition et je suis vraiment très, très spécialisée là-dedans. Et à mes yeux, un diététicien va avoir une approche nutrition déjà reconnue en France versus naturo-nutrithérapeute. Et il faut avoir un BTS diététique, je crois. Et à ma connaissance, c'est une approche assez différente des deux autres qui va se focaliser sur déjà l'apport calorique, les macronutriments, donc les glucides, la grande famille des sucres, les lipides, la grande famille des gras, les protéines. C'est souvent des gens qui exercent en milieu hospitalier ou en libéral aussi, mais pour prendre en charge des soucis métaboliques, souvent comme le diabète ou encore les troubles du comportement alimentaire, par exemple, même si en discutant avec des diététiciennes récemment, j'ai l'impression que le métier change un petit peu avec les années, mais voilà en gros un petit peu pour s'y retrouver. J'espère que ça répond à ta question.
C'est très clair et je pense comme souvent, alors ça moi je le dis, c'est biaisé aussi, j'ai passé des années dans les pays anglophones, très souvent il y a des métiers, je trouve, qui apparaissent beaucoup plus tôt dans les pays, je l'ai constaté plein de fois, à plein de niveaux dans les pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou l'Australie et qui arrivent après chez nous, notamment sur ces sujets-là. Typiquement, il y a un métier de coach de santé qui n'existe pas encore en France vraiment et qui va arriver, je pense. Je suis quasi certaine et qui est déjà reconnu au niveau du ministère de la Santé en Angleterre. C'est un exemple de mouvement comme ça qui s'opère et je crois que toi, tu t'es formée justement parce qu'il n'y avait pas forcément de formation spécifique en France. Tu t'es formée à l'étranger, c'est bien ça ?
Absolument, c'est exactement la raison pour laquelle je suis allée me former au Royaume-Uni. En tout cas, à l'époque, quand je cherchais en France, je trouvais que des formations généralistes, donc de naturopathe. Moi, j'avais peur d'être frustrée et de ne pas faire assez de nutrition, vraiment très spécifiquement au niveau biochimique, cellulaire. Et c'est, voilà, c'est pour ça que je suis allée là-bas. Et effectivement, là-bas, c'est un métier reconnu, institutionnalisé. Il n'y a pas de flou, en fait. Alors qu'en France, effectivement, je suis d'accord avec toi, en général, pour toutes ces approches, on a tendance à avoir un petit peu beaucoup de retard. Et c'est pour ça que c'est bien pratique de comprendre l'anglais, parce que bah, aujourd'hui, voilà, je me suis formée en anglais, je continue à me former en anglais auprès de, voilà, de mentors aussi, notamment, qui sont australiens, américains, britanniques. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une source d'apprentissage assez extraordinaire.
Génial. Mais écoute, oui, je ne peux que j'espère que ça va continuer à évoluer. Comme tu le dis, heureusement, on est aussi des êtres d'évolution. Donc, ça va certainement continuer à évoluer. Alors, tu parles beaucoup d'équilibre hormonal. Est-ce que tu peux resituer pour le commun des mortels les hormones? Bon, on en entend beaucoup parler au niveau des hormones féminines souvent. On entend un peu toutes parler d'œstrogènes, de progestérone. Juste si tu peux resituer ce que c'est et les déséquilibres les plus fréquents que tu rencontres également.
Oui, absolument. Et c'est important de commencer par là, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hormones, mais ce n'est pas une notion forcément claire pour tout le monde. Une hormone, c'est une substance chimique qui est produite dans notre corps naturellement par une glande qui va ensuite voyager dans le sang, dans notre corps, pour aller atteindre une cellule cible. Donc cette hormone, donc elle est produite au niveau de la glande, elle voyage et puis elle arrive à bon port sur sa cellule. Et une fois imbriquée dans la cellule ou sur la surface de la cellule à travers un récepteur qui l'attend, en fait un récepteur spécifique à l'hormone en question, eh bien l'hormone, son job, c'est d'indiquer à la cellule d'adapter son fonctionnement. Et en fonction de l'hormone, bah forcément le message est différent. Donc en bref, l'hormone, c'est vraiment un messager chimique. Voilà, c'est comme un pigeon voyageur qui livre un message à la cellule. Et quand on pense hormones, c'est vrai, t'as raison, on pense estrogène, progestérone, parce qu'on pense souvent aux hormones sexuelles, reproductives, mais il faut savoir qu'il y a des hormones pour absolument tout, hein. Non seulement pour le cycle menstruel, l'ovulation, la fertilité, mais aussi pour l'équilibre des fluides, par exemple, pour la régulation de la faim, de la satiété, de la santé cardiovasculaire, le rythme jour-nuit, notre horloge interne de 24 heures, notre système immunitaire, la régulation de la glycémie, le stress, enfin absolument tout. Et d'ailleurs, les hormones sexuelles ne sont jamais que purement sexuelles. Tu vois, l'estrogène a des fonctions au niveau cérébral, cognitif, lubrification des tissus. La progestérone elle-même, elle a des fonctions au niveau des neurotransmetteurs calmants, au niveau de l'immunité, entre autres. Donc finalement, les hormones sont multifonctions et servent à absolument tout, des pieds à la tête. D'où le fait que quand on a une qui est déréglée, bah, il n'y a pas que des symptômes potentiellement. Et finalement, au niveau du cycle menstruel, de l'ovulation, de la fertilité, ça peut se manifester à d'autres, oui, à d'autres niveaux.
Et effectivement, la mélatonine qu'on connaît un petit peu aussi, c'est une hormone, hein. On est bien d'accord.
Absolument. Ouais.
Ouais, la sérotonine, la dopamine, enfin, il y a des noms comme ça que les gens entendent.
Alors ça, c'est des molécules hybrides, ouais, qu'on appelle neurotransmetteurs, mais qui sont en réalité des pseudo-hormones. En fait, c'est des sortes d'hormones qui fonctionnent au niveau du système nerveux et qui effectivement sont assez similaires dans leur but de transmission. Mais voilà, de temps en temps appelé hormones, de temps en temps appelé neurotransmetteurs.
C'est ça.
Mais oui.
Merci. C'est le même. La précision. Ce qu'on disait, c'est qu'on observe, et de toute façon, je crois qu'on est nombreuses à observer dans notre entourage. Enfin, moi, je suis estomaquée, je me pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, j'ai énormément de personnes autour de moi qui me disent souffrir d'endométriose, de SOPK, de toutes sortes de SPM, voilà. Alors, il y a une partie où je pense qu'effectivement, tu le dis souvent, on en parle beaucoup plus via les podcasts, via les réseaux sociaux, certes, c'est un fait. Ceci dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme d'explosion de ces troubles et on se dit que notre mode de vie peut aussi y contribuer. Mais ce que j'aimerais savoir déjà, c'est justement dans ces déséquilibres. Alors, j'entends beaucoup parler notamment d'endométriose, d'SOPK. Qu'est-ce que toi, tu rencontres le plus souvent justement comme type de déséquilibre hormonaux?
Oui, alors effectivement, endométriose, SOPK, c'est assez exceptionnel le nombre de personnes qui viennent me voir avec ça. Et pour chacun de ces déséquilibres, on dit qu'on estime qu'il y a une femme sur 10 qui est touchée, même si bon, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec sans le savoir. Donc bon, je suppose que c'est certainement un petit peu plus élevé. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres soucis. Déjà, n'importe quel souci de cycle, de règles, qu'elle soit absente, donc qu'on soit en aménorrhée ou qu'elle soit chaotique, que les cycles soient super longs, qu'ils soient très difficiles à vivre avec un SPM, sans ovulation et donc potentiellement avec des soucis de fertilité. Mais je vois aussi plein d'autres soucis de fertilité qui peuvent être dus à plein d'autres soucis. Je vois énormément de soucis de thyroïde, énormément d'hypo thyroïdie, notamment quand la thyroïde est un petit peu flanche, un petit peu ou beaucoup. Je vois beaucoup de fibromes aussi, qui sont des petites tumeurs ou des grosses tumeurs bénignes qui viennent se loger en général dans l'utérus et qui font saigner énormément, donc avec des règles hémorragiques, beaucoup d'acné et autres soucis de peau, même si voilà, pour tout ce qui est eczéma urticaire, on l'associe moins à tout ce qui est hormonal, alors que les hormones ont leur mot à dire en fait dans ces soucis cutanés. Chute de cheveux, problème à l'arrêt de la pilule aussi, quand les hormones commencent à faire n'importe quoi, alors qu'avant la pilule c'était pas forcément le cas. Après je vois aussi plein de ramifications qui vont au-delà de ces diagnostics que je viens de citer, mais qui en fait ont un impact hormonal énorme et qui peuvent en fait finalement se matérialiser sous forme d'hypothyroïdie, d'endométriose, etc. Comme par exemple le burn-out qui touche énormément de mes clientes et qui finalement dérègle toutes les hormones, plus ou moins en fonction de nos sensibilités. Donc voilà, à peu près le petit panel de ce que je vois très régulièrement tous les jours en consultation.
C'est déjà un beau panel. Effectivement, la thyroïde, c'est vrai que ça aussi, on en entend énormément parler. Et alors, justement, donc ce que je disais, je ne vais pas m'attarder trop sur le côté podcast, réseau, où effectivement, il y a beaucoup plus d'informations disponibles et c'est tant mieux. Ça a beaucoup contribué, je pense, pour les femmes à s'intéresser différemment à leur santé, à leur bien-être, et c'est une super nouvelle. Autrement, qu'est-ce qui, pour toi, fait partie des causes majeures de ces déséquilibres en augmentation quand même?
Oui, je pense que tu as raison, il y a d'autres éléments dans l'équation, parce que oui, on les diagnostique beaucoup mieux et on est beaucoup plus au courant, donc on prend notre santé en main. Mais bon, il y a certains éléments qui expliquent en partie, je pense, le fait que ce soit si commun aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis biaisée, bien évidemment, mais avec mon métier, les gens, même hors consultation, dans d'autres contextes, viennent de se confier à moi et je me rends compte que vraiment, ça touche tout le monde. Donc, je pense que déjà, on vit dans un monde toujours plus toxique. En fait, on baigne dans une espèce de soupe de substances toxiques pour nos hormones et pour notre corps, notre santé de manière générale. Plein de perturbateurs endocriniens, donc des perturbateurs hormonaux. Et ça, c'est vraiment notre quotidien en permanence. L'eau que l'on boit avec laquelle on se lave n'est certainement pas dénuée de substances impures, on va dire. Notre alimentation est bourrée de pesticides, nos meubles, nos objets du quotidien, nos produits du quotidien se relarguent certainement des substances qu'on inhale, qui traversent notre peau en permanence. Notre air est pollué, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Nos vêtements aussi sont recouverts ou parfois composés de substances toxiques qui traversent notre peau. Encore une fois, la peau n'est pas imperméable et tout ça, ça perturbe nos hormones, ça accable notre foie qui est pourtant le grand responsable de la régulation hormonale entre autres, et voilà, ça peut faire partie des éléments qui pourraient expliquer que c'est de plus en plus commun malheureusement, mais il y a plein d'autres facteurs. Je pense au stress chronique qui est une vraie épidémie et qui nous affecte tous, à moins qu'on ait vraiment travaillé là-dessus ou qu'on soit un peu ermite dans notre petite campagne à parler à personne, mais vraiment le stress chronique, ça perturbe toutes les hormones, souvent c'est le responsable, le déclencheur du problème, et si c'est pas le déclencheur, c'est à minima un énorme contributeur. Le stress chronique, je précise que c'est non seulement ce qu'on pense tous, les factures à payer, la charge de travail, la charge mentale, etc., etc., mais c'est aussi en fait plein d'éléments qui sont pourtant essentiels et qu'on met un petit peu de côté, comme en fait manquer d'amour dans notre vie, le manque de lien social authentique, l'absence de but dans la vie, de joie de vivre. Vivre une vie qui ne nous plaît pas, c'est un énorme stress chronique au quotidien. Et finalement, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent une vie vraiment qui ne leur apporte aucun bonheur. Et ça, c'est terrible et ça dérègle nos hormones big time. Une autre épidémie, si je peux employer ce terme, qui contribue certainement au déséquilibre hormonaux, c'est le manque de sommeil. Voilà, on a tendance à dire je dormirai plus tard, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, c'est accessoire, je rattraperai mon sommeil ce week-end. Sauf qu'une seule moins bonne nuit de sommeil, même si on imagine la rattraper, ça dérègle par exemple la glycémie, la régulation du sucre dans le sang, qui quand elle est déréglée est un petit peu le terreau des déséquilibres hormonaux. C'est une expression que j'utilise souvent. Et puis c'est pas tout, on est aussi globalement sous-nourri. Je veux dire par là que de nos jours, dans les pays occidentaux du moins, on se remplit beaucoup, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, on mange beaucoup en quantité, mais réellement on ne se nourrit pas assez, en tout cas parce que notre alimentation manque cruellement de densité micronutritionnelle. Elle manque de vitamines, de minéraux, ces micronutriments qui ne pèsent rien dans notre assiette mais qui pourtant sont à la base du métabolisme cellulaire. Et sans, si la cellule ne fonctionne pas bien parce qu'il n'y a pas assez de certains vitamines minéraux, les hormones ne peuvent pas fonctionner. Les hormones, elles sont produites au niveau cellulaire, elles sont métabolisées au niveau cellulaire, elles sont recyclées au niveau cellulaire. Donc vraiment, il faut prendre soin de ce niveau cellulaire. Et ce niveau cellulaire, il ne marche que parce qu'il y a des micronutriments. Après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, mais c'est quand même la base. Donc voilà un petit peu ce qui me vient en tête et qui concerne plus ou moins tout le monde, malheureusement, et qui malheureusement contribue au déséquilibre hormonaux, je pense.
Tout à fait, je te rejoins complètement. On va en reparler un petit peu après sur les pistes, parce qu'effectivement, on dresse un tableau qui peut paraître très pessimiste. Heureusement, il y a des pistes et des vraies solutions pour aller travailler là-dessus. Et j'aimerais avant ça faire un focus sur un sujet qui me parle particulièrement, qui est la pilule. Est-ce que nous pourrions faire un aparté ? Alors, je sais que ça peut déchaîner les passions, qu'il y a des personnes qui vont dire « Non, mais tu comprends pas, c'est génial, de toute façon, je n'ai plus de règles, donc c'est formidable. » D'autres qui vont y voir le mal en personne et que je pense qu'il y a quand même des a priori et des incompréhensions parfois sur ce sujet.
Oui, alors vaste sujet et on pourra en parler des heures, mais pour dire un petit peu l'essentiel, j'ai envie de dire que la pilule n'est pas anodine et que souvent on la prend sans se rendre compte de ce que ça fait dans notre corps, ce pourquoi on la prend, ce que réellement en fait ça va déterminer d'un point de vue biochimique. Et la pilule, en gros, ça perturbe plusieurs centaines en fait de réactions chimiques dans notre corps, donc c'est pas rien. Et ça a un impact non seulement au niveau reproductif et avec les hormones sexuelles, mais pas que. Déjà au niveau des hormones sexuelles, comment ça marche, en fait, ça ne régule absolument pas nos hormones. Ça va en fait bloquer la production hormonale au niveau des ovaires. Après, il y a plusieurs types de pilules, il y a plusieurs types de fonctionnement, mais en gros, c'est ça. La pilule, c'est beaucoup d'hormones synthétiques qui ressemblent à notre estrogène, qui ressemblent à notre progestérone. Et du coup, il y en a au quotidien dans notre sang, parce que quand on avale la pilule, ça passe dans notre sang. Et notre cerveau, qui croit qu'il y a suffisamment d'estrogène et de progestérone, alors qu'il s'agit de pseudo-estrogène, pseudo-progestérone dans la pilule, se dit, bon, à quoi bon en produire ? Il y en a déjà assez en circulation. Donc, le cerveau est un petit peu trompé, et finalement, il ne donne plus l'ordre aux organes sexuels, aux ovaires de produire de l'estrogène, d'ovuler, donc de produire de la progestérone, et nos hormones sexuelles sont à plat. Donc finalement, sous pilule, hormonalement, on a plus un profil ménopausé qu'autre chose, finalement. Sauf que les hormones synthétiques, eh bien, nous donnent l'illusion qu'on a un cycle menstruel. Quand on arrête la pilule quelques jours pour avoir nos règles, bah justement, c'est des fausses règles, en fait, ce qu'on appelle des saignements de privation, qui sont dus à l'arrêt brutal d'hormones synthétiques qu'on reprend par la suite, et donc bah, on a l'impression qu'on a nos règles, on a l'impression qu'on a un cycle régulé, mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe biochimiquement, en fait, au niveau de notre corps. Et comme les hormones sexuelles naturelles qu'on produit au niveau des ovaires, au niveau de l'ovule qui vient d'ovuler, etc., sont nécessaires non seulement pour tout ce qui est reproductif, mais aussi pour plein de choses, comme je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, allant de la santé cognitive et cérébrale à l'immunité, en passant par la santé cardiovasculaire, entre autres, et bien le fait de ne plus produire nos propres hormones a des impacts, en fait, finalement, à ces niveaux-là également, de la tête aux pieds. Donc ça, c'est la première chose à considérer. Et tout à l'heure, je disais aussi que finalement, ces hormones synthétiques de la pilule perturbent des centaines de réactions chimiques dans notre corps. Et bien typiquement, ça va venir accabler un petit peu le foie, ça va venir aussi perturber le microbiote intestinal, qui est considéré par certains comme un organe à part entière et qui sert à beaucoup de choses. Ça va venir affaiblir en général un petit peu la thyroïde, les glandes surrénales également. Ça va venir potentiellement créer des carences nutritionnelles, vraiment puiser dans nos stocks de nutriments, ce qui nous laisse carencés, comme je viens de le dire. Donc voilà, c'est loin d'être anodin, et la pilule a bien évidemment sa place dans un parcours médical thérapeutique, mais voilà, il faut la prendre pour les bonnes raisons, je pense, et puis être au courant que voilà, c'est pas quelque chose qui va régler notre problème hormonal, parce que dans plus de 50% des cas, elle est prescrite pour de l'acné, une chute de cheveux, quelque chose comme ça, sauf que bon, quand on arrête la pilule, rien n'a dit à nos hormones naturelles d'être produites différemment quand elles reprennent du service, et du coup, en général, ça revient. Donc voilà un petit peu en vrac mes pensées sur la pilule, et je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, on comprend bien que ça masque, ça peut permettre d'avoir un quotidien peut-être allégé pour certaines, parce que ça masque souvent les symptômes ou enfin le problème. Et je pense que le message moi que j'ai envie de faire passer, c'est celui-là, c'est que c'est parfois effectivement il y a peut-être pas d'autres solutions et tout a été étudié, mais j'ai trop souvent entendu que c'était un peu la solution donnée à la va-vite comme ça pour faire simple, et je pense que c'est important, en tout cas quand on se soucie de sa santé à long terme, de pouvoir vraiment bien se renseigner pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, parce que parfois oui, il y en a, et parfois on n'a pas forcément la personne en face pour nous renseigner là-dessus. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont curieuses et qui ont envie d'explorer d'autres choses, il y a des choses à explorer en tout cas, voilà.
Je suis d'accord.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes des Secrets de Polichinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple, Spotify, Deezer. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également via l'adresse email secretspolichinelle@gmail.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt !